Cet après-midi à l'émission, c'est le retour d'une chronique qui avait pris une pause au printemps. Et là, elle est de retour, et ça pour toute la saison. On retrouve aujourd'hui Maître Jade Barrière, avocate au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Jade, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Et chaque deux semaines, comme ça, on parlera de différents sujets et de sujets dont on peut avoir les réponses. Oui, en vous appelant au CJPO, mais on va quand même faire de belles grandes chroniques sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on va parler arrestation, Jade, parce que plusieurs personnes peuvent avoir des questions en lien avec ça. Tout d'abord, dans quelles circonstances est-ce que la police peut procéder à une arrestation?
Bien, en fait, il existe deux types d'arrestations. Donc, celle faite avec un mandat d'arrestation et celle sans mandat. Lorsqu'on parle d'une arrestation avec un mandat, on réfère au cas où un juge a ordonné l'arrestation de la personne. Autrement, une arrestation se fait sans mandat. Dans tous les cas, pour qu'une arrestation ait lieu, il doit exister des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un crime ou est sur le point de commettre un crime. On parle bien de motifs raisonnables de croire et non de simples soupçons. Mm-hmm. Donc, les motifs, ils doivent être à la fois objectivement, subjectivement et aussi raisonnablement justifiables.
Puis, ben ça, on le voit beaucoup à la télé, là, mais quels sont les droits d'une personne lorsqu'elle est arrêtée par la police au Canada?
Mais lorsqu'une personne est arrêtée ou détenue, elle a le droit immédiat de savoir pourquoi et de quoi elle est accusée. Elle a également le droit de parler immédiatement à l'avocat de son choix pour obtenir des conseils et de l'aide préalable. Puis les policiers doivent l'informer des possibilités qui s'offrent à l'individu, comme l'aide juridique, les services d'avocat de garde qui sont disponibles gratuitement si c'est nécessaire. Les policiers doivent tout mettre en œuvre, en fait, pour que l'individu puisse communiquer avec un avocat, notamment en lui fournissant un téléphone pour faire l'appel. Puis l'appel à l'avocat, il doit également être fait de façon confidentielle et les policiers doivent prendre des mesures pour que cette confidentialité-là soit préservée. Dans la mesure où il est impossible que l'appel soit confidentiel en raison de certains facteurs indépendants, les policiers doivent mentionner à la personne détenue qu'il est possible que l'appel ne soit pas à 100% confidentiel pour que la personne détenue puisse choisir ou non d'exercer son droit dans de telles circonstances.
Okay.
En plus, la police en fait doit informer la personne de son droit de garder le silence et ne doit pas l'interroger ni recueillir des informations avant qu'elle n'ait eu l'occasion de parler à un avocat. Puis si l'avocat n'est pas disponible, les policiers doivent lui permettre d'en contacter un autre. Et c'est seulement après avoir consulté un avocat que les policiers ont le droit de continuer à interroger la personne qu'ils détiennent.
Bon, ça c'est pour les arrestations, nos droits, tout ça. C'est quoi les lois et les réglementations qui concernent la fouille et la saisie au pays?
Mais la loi canadienne, elle protège les individus contre les fouilles et les saisies abusives lors de la détention. Donc les policiers doivent avoir des objectifs valables afin de procéder autant à l'arrestation qu'à la fouille, en fait. Donc, pour qu'une fouille ou une perquisition soit non abusive, elle doit être autorisée par la loi et être effectuée de façon raisonnable et de manière générale, si elle doit être fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise ou qu'elle sera commise. Donc, d'abord, une fouille, elle est présumée légale si la personne qui l'effectue a obtenu un mandat. Donc, pour obtenir un mandat, un policier, par exemple, doit obtenir une autorisation d'un juge après avoir convaincu ce dernier qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'en effectuant la perquisition, il va trouver des éléments de preuve qui sont reliés à une infraction spécifique. Mais également, une fouille sans mandat va être légale si la personne qui effectue la fouille a l'autorité légale qui lui autorise à le faire. Donc, pour qu'une fouille sans mandat ne soit pas abusive, le policier qui effectue la fouille d'une personne mise en état d'arrestation, il doit avoir des motifs raisonnables de croire que des preuves pourraient être perdues ou détruites dans l'attente d'obtenir un mandat. Puis le policier peut également effectuer une fouille par palpation lorsqu'une personne est interceptée pour des raisons de sécurité personnelle ou de sécurité du public. Mais dans tous les cas, les policiers doivent prendre en compte la totalité des circonstances afin de pouvoir juger de la nécessité de la fouille accessoire à l'arrestation. Finalement, il faut rappeler que lors d'une arrestation ou même lorsqu'une personne est seulement détenue, les policiers peuvent saisir un élément de preuve lorsqu'il est bien en vue ou ce qu'on appelle en plain view. Donc, on parle d'un objet qui est bien en vue lorsqu'il n'est pas nécessaire pour le policier d'effectuer une fouille d'un milieu pour que l'objet soit trouvé, puis que l'objet, en fait, est donc très bien visible. Par exemple, ça pourrait être le cas d'un sachet de drogue illicite se trouvant sur le siège passager d'un véhicule alors qu'un conducteur est intercepté en lien avec le code de la sécurité routière. Puis, lorsque des accusations sont portées, si un accusé est en mesure de démontrer qu'un élément de preuve a été obtenu par le biais d'une fouille ou d'une perquisition abusive, il peut présenter une demande afin de faire exclure cette preuve-là et selon les circonstances, la demande peut être accordée.
Puis sinon, quelles sont les obligations des policiers en cas d'arrestation?
Bien, le code de déontologie des policiers prévoit en fait que les policiers doivent agir de manière à ce que les gens leur fassent confiance et les respectent en raison de leur fonction qui est essentielle. Donc, le code de déontologie, il sert à réglementer la conduite des policiers et il définit les comportements qui sont considérés comme inappropriés et inacceptables. Et cela inclut, entre autres, l'utilisation d'un langage qui est offensant, les remarques irrespectueuses fondées sur diverses caractéristiques, le refus de s'identifier en tant que policier, le fait de ne pas porter des pièces d'identité requises, l'abus de pouvoir dans les interactions avec le public et aussi le non-respect de la loi en termes d'arrestation ou de détention. Donc, ainsi, le policier qui abuse de son autorité, il commet un acte interdit par le code de déontologie des policiers. Et parmi ces abus, on peut mentionner le recours à une force plus grande que nécessaire, le recours aux menaces, l'intimidation, le harcèlement, mais aussi le fait de porter intentionnellement et sans justification une accusation contre une personne ou d'abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration ou un aveu.
Puis là, qu'est-ce qui se passe là, après l'arrestation d'une personne là, qui est accusée ou criminelle?
Ben, en règle générale, les personnes accusées d'un crime sont autorisées à attendre leur procès en étant en liberté. Cependant, il existe certaines exceptions. Donc, d'abord, si les policiers ont des craintes au sujet de la remise en liberté d'un accusé lors de son arrestation, l'accusé peut être détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal. Donc, la comparution doit avoir lieu à ce moment-là dans les 24 heures de l'arrestation de l'accusé. Puis, au moment de la comparution, il est parfois possible que l'accusé soit remis en liberté lorsque l'avocat de la poursuite y consent et à condition que l'accusé s'engage à respecter certaines conditions qui peuvent lui être imposées par le tribunal. Il arrive cependant que la poursuite s'objecte à la remise en liberté d'une personne. Donc, il y a trois motifs qui peuvent justifier une objection de la part de la poursuite. D'abord, il peut y avoir une objection si l'avocat de la poursuite croit que la détention est nécessaire pour assurer la présence de l'accusé au tribunal.
OK.
Ensuite, il peut y avoir une objection si la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment dans les cas où il y a une probabilité marquée qui existe que l'accusé commette une nouvelle infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice s'il est remis en liberté. Finalement, il peut y avoir une objection s'il y a des craintes que la détention soit nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Dans ces trois circonstances, une audition doit être tenue devant un juge afin que ce dernier tranche sur la nécessité de garder un accusé détenu pour l'un ou plusieurs de ces trois motifs. Donc, c'est ce qu'on appelle une enquête sur remise en liberté ou une enquête caution. Et cette audition doit se tenir dans les trois jours de la comparution de l'accusé, à moins que l'accusé renonce à ce droit et accepte que l'enquête sur remise en liberté ait lieu au-delà du délai de trois jours.
Mm-hmm.
Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'enquête sur remise en liberté ne constitue pas le procès en lui-même. Donc, le juge n'aura pas à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.
Puis là, concernant là, les remises en liberté, il y en a différents types. Quels sont-ils?
Il y a plusieurs façons, effectivement. Là. Donc, d'abord, après avoir été arrêté par les policiers, une personne peut être remise en liberté avec une citation à comparaître sur laquelle une date de comparution à la cour et une date pour la prise d'empreinte sont prévues. Également, il peut être remis en liberté après avoir signé une promesse de comparaître. Donc, la principale différence entre la citation à comparaître et la promesse de comparaître consiste en le fait que la promesse de comparaître prévoit des conditions de remise en liberté qui doivent être respectées.
OK.
Dans certains cas, les policiers remettent une personne en liberté sans lui donner de documents et en lui indiquant qu'une sommation lui sera envoyée. Donc, une sommation, elle est généralement transmise par courrier et contrairement à la citation à comparaître et à la promesse de comparaître, qui, elles, sont rédigées par les policiers, elles constituent une ordonnance émise par un juge. Donc, une date pour la comparution à la cour et pour la prise d'empreinte, ils sont également indiqués.
Mm-hmm.
Également, on peut parler de mise en liberté judiciaire lorsqu'on réfère à une ordonnance de mise en liberté. Donc, ce type de remise en liberté a lieu lorsqu'une personne comparaît détenue devant un juge et que l'avocat de la poursuite ne s'objecte pas à la remise en liberté de l'individu ou encore suite à une décision du juge lors de l'enquête sur remise en liberté. bien qu'il arrive qu'une mise en liberté judiciaire soit accordée sans condition, elles sont généralement assorties de conditions dont le degré de restriction va pouvoir varier.
Puis est-ce que tu aurais quelques exemples, justement, de conditions qui seraient imposées par un juge?
Oui, on peut parler notamment d'interdiction de communiquer avec une personne de façon directe ou indirecte. Donc, lorsqu'on parle de façon indirecte, on réfère aux communications faites par l'intermédiaire d'une autre personne. Par exemple, en demandant à un proche de transmettre un message à quelqu'un. Il peut également y avoir des interdictions d'être en la présence d'autres individus, des interdictions de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool ou des drogues, l'obligation de participer à une thérapie, respecter un couvre-feu et bien d'autres. Ce qu'il faut retenir, par contre, pour un accusé, c'est que les conditions s'appliquent à lui uniquement et qu'il est le seul à assumer les conséquences d'un non-respect. Ainsi, s'il a, par exemple, la condition de ne pas communiquer avec un certain individu, mais que cet individu-là continue de communiquer avec lui ou initie des communications, l'accusé a tout de même l'obligation de ne pas répondre à cette personne.
Okay.
Puis, si l'accusé, en fait, il ne respecte pas ses conditions, il peut être accusé d'un bris de conditions et, dans certains cas, être gardé détenu jusqu'au procès. Donc, le fait de briser des conditions, ça peut également être constitué comme un facteur aggravant et avoir un impact négatif sur la sentence.
Et c'est ce qui fait le tour de notre sujet aujourd'hui. Si nos auditeurs ont des questions, s'ils veulent en savoir plus sur le sujet, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils peuvent toujours nous contacter en fait au CJPO, puis ils peuvent nous joindre par téléphone au 1-844-606-4600, qui est sans frais, ou encore au 819-600-4600. Puis je rappelle également que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Maître Jade Barrière, avocate au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci, puis on se reparle bientôt.
Merci à vous.